Bienvenue dans l'épisode 23 de La Boîte à Clés. La Boîte à Clés, c'est un podcast qui a pour ambition de vous aider à vous révéler, à dévoiler votre potentiel et à vous faire passer à l'action. Je m'appelle Catherine Baudouin, je suis coach personnelle et professionnelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Mon objectif ici est d'aborder avec vous des sujets très variés, tant sur le plan personnel que professionnel, afin que chacun y trouve ce dont il a besoin. Pour cela, je pars à la rencontre de personnes qui ont des histoires de vie inspirantes pour qu'elles nous racontent et nous expliquent en première partie d'épisode leur parcours, leur état d'esprit, leur réussite, leurs enseignements, leurs moments de doute et encore leurs difficultés. Et enfin, dans une deuxième partie d'épisode, je partage avec vous des outils, astuces ou informations pratiques en lien avec le thème de l'interview pour que vous puissiez vous en inspirer selon ce dont vous avez besoin pour amorcer vos propres changements. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Marie-Thérèse Pelletier. Marie-Thérèse est aujourd'hui thérapeute, mais vous allez découvrir que ce n'a pas toujours été le cas, puisqu'initialement, elle exerçait un métier plutôt manuel et artisanal. Dans cette interview, Marie-Thérèse nous raconte son parcours de vie professionnel, sa reconversion, mais aussi et surtout tout son cheminement personnel et le travail qu'elle a réalisé sur elle-même pour avancer et traverser les différentes épreuves de la vie. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse en compagnie de Marie-Thérèse Pelletier et je vous retrouve en fin d'interview. Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour Catherine.
Merci beaucoup de m'accueillir dans ton chez-toi, dans ton cabinet. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec toi cet après-midi.
Partagez.
Merci beaucoup. Marie-Thérèse, pardon, tu es thérapeute. Tu pratiques en consultation individuelle. Tu fais également des formations, des ateliers, des conférences et aussi des interventions en entreprise, hein, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et en fait, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avant que tu nous expliques exactement ce que tu fais aujourd'hui et comment tu travailles, comment tu procèdes pour accompagner les personnes que tu accompagnes, j'aimerais déjà comprendre comment tu en es arrivée là, parce que je sais que tu as un parcours de vie très très intéressant à nous raconter, que ce n'était pas ton métier à l'origine, et c'est la vie qui t'a conduit là. Tu as su écouter la vie et saisir les opportunités. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, justement ce parcours de vie?
Eh bien, avec plaisir. Alors, en fait, oui, comme tu dis, j'ai pas été, je ne pensais pas être thérapeute, mais à la fois, j'ai toujours eu ça en moi, où j'aimais aider l'autre, prendre soin de l'autre. Mon métier était coiffeuse, puisqu'à l'âge de 16 ans, j'ai commencé la coiffure.
D'accord. Après, c'était ton rêve de petite fille d'être coiffeuse?
Non, ça s'est fait naturellement comme D'accord. ça. Parce que ben déjà, par rapport à l'école, j'avais du mal à l'école. Et puis ben, souvent, quand on a du mal à l'école à l'époque, eh ben, on faisait un métier artisanal. Hein, donc voilà, ça démarrait comme ça. Mais à la fois, je n'ai jamais regretté parce que j'ai été très, très vite passionnée. Parce que je pense que de nature, je suis une passionnée, quoi que je fasse. Et puis la coiffure, ben voilà, m'a pris vulgairement dans les tripes. J'ai adoré ce que j'ai fait. Après cet apprentissage, ben voilà, j'ai continué parce que je suis toujours une personne qui aime apprendre. Donc j'ai passé tous mes examens en coiffure. J'ai eu mon salon de coiffure, mon premier salon de coiffure. J'ai fait beaucoup de formations dans le management aussi pour pouvoir D'accord. bien manager, enfin essayer en tout cas de manager mes équipes. Passionnée par les clients, par l'échange, par le partage, par tout ce que les clients ont pu m'apporter. Et Dieu sait ce qu'ils m'ont apporté.
Je c'était pense pas que... juste simplement le fait de pratiquer la coiffure, en fait, ça allait au-delà déjà.
C'est ça, les deux. C'était les deux, c'était en fait la coiffure, bah, c'est rendre les gens heureux. En tout cas, c'était pour moi
une forme de bien-être.
Bien sûr. Ils quittaient le salon, s'ils avaient le sourire, bah, j'étais heureuse parce qu'une femme ou un homme pouvait rentrer, alors plus principalement les femmes, c'est vrai, mais rentrer un peu tristounette et puis pas trop bien, et puis ressortir avec un grand sourire. Et là, j'ai l'impression que j'avais tout gagné. J'étais très, très heureuse de ça. Donc, ça m'a enivrée. C'est un métier qui m'a enivrée.
D'accord.
Puis j'avais des retours aussi, de la reconnaissance,
bien sûr,
forcément.
Dans le regard de tes clients.
Et oui,
les clientes.
Beaucoup de reconnaissance. Donc, ça aussi, hein, on peut s'y perdre d'ailleurs dans la reconnaissance à l'autre que par ce qu'on fait. Ce que j'ai compris aujourd'hui, dans ce que je fais aujourd'hui, il y avait inconsciemment, je pense, une attente de reconnaissance aussi de moi-même, de ce que je pouvais apporter. Et puis, bah, les salons, bah, voilà, j'en ai ouvert un, j'en ai ouvert deux.
D'accord.
Et puis après, les deux ont fusionné. Mes équipes ont grandi. Et puis, ben, dans ce schéma, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ben, j'étais moins bien parce que le management me plaisait, mes formations me plaisaient. En parallèle, je faisais beaucoup de formations en développement personnel parce que j'ai toujours été passionnée de
T'étais
l'humain.
déjà attirée
Complètement.
par ça, d'accord.
Complètement. J'étais complètement attirée dedans. J'ai fait pas mal de formations, puis ou suivre des conférences, ou voilà, ou lire beaucoup de
Beaucoup
livres,
de livres.
beaucoup, mais qui me servaient aussi, sans m'en rendre compte, en fait, dans mes salons, parce que souvent, j'avais des clientes, même le soir, qui m'appelaient, ou j'avais une cabine de massage. Et finalement, il y avait pas mal de larmes qui sortaient parce que je les aidais déjà à ce moment-là. Mais très, très honnêtement, j'en ai pris conscience bien longtemps après.
Pas sur le moment, en tout cas.
Jamais.
Et en
D'ailleurs.
termes de management, ça t'a servi aussi,
Ah oui,
peut-être?
bien sûr. Bah, ça m'a fait travailler aussi sur moi, forcément. Et je pense que quand on est en relation avec l'autre, ça nous fait travailler sur nous automatiquement.
Quelle que soit la nature de la relation,
Quel
que
que
ce soit
soit
un
la.
client, que ce
C'est
soit
ça.
un fournisseur, que ce soit un
C'est ça.
collègue.
C'est ça. Il y a toujours un lien qui est ben, se remettre en question et voilà. Donc, ben, forcément, dans une entreprise, c'est pas toujours rose. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de souffrances aussi.
Dans tes propres salons?
Ouais, dans mes propres salons, avec mes collaboratrices. Je pense que j'avais aussi un rôle de mère. Donc très protectrice, pas faire la différence et la distinction entre le chef d'entreprise et la personne que j'étais.
C'est souvent le risque, oui, pour les chefs
Oh,
d'entreprise.
c'est ça. Ah bah je suis tombée bien dedans. Donc bah, beaucoup de déceptions.
Tu t'en es rendu compte sur le moment que tu tombais justement dans ce piège-là?
Non.
Ou c'est tu t'en es rendu compte après?
Bien sûr. En fait, quand on est dedans, on ne se rend pas compte. On est plutôt dans les frustrations, dans les colères, dans toutes les émotions, l'injustice. La trahison, enfin toutes les blessures
Les
en fait,
blessures de Lise Bourbeau.
mais bien sûr que non, je ne suis pas du tout consciente que j'étais en train de vivre ça. C'est après, quand on sort, c'est qu'on voit clair après de qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand on est dedans, on a la tête dedans, et j'avais la tête dedans. Donc voilà, j'ai fait des erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai appris de mes erreurs. J'ai payé cher mes erreurs dans mon management, d'être aussi la personne que j'étais, hein, assez exigeante
Vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des
vis-à-vis
autres?
de
Les
moi.
deux.
Bah, quand on est, enfin, pour moi, ma croyance, c'est que si je suis exigeante vis-à-vis de moi-même, je suis exigeante vis-à-vis des autres.
D'accord.
Donc j'aimais que ce soit bien fait, donc je passais sur rien. Donc une forme aussi d'autorité hein, qui pouvait être et puis ben cette autorité j'ai compris bien longtemps après qu'elle était liée à mes peurs de mal faire quand une cliente venait ou un client ben, voilà j'étais toujours à ce que ce soit ben, le plus parfait que ça pouvait être. Je
Pour
disais toujours telle somme doit correspondre à voilà
tel niveau
tel
d'exigence,
niveau d'exigence
peur de ne
donc
plus avoir la reconnaissance des clients si jamais l'exigence n'est pas atteinte, n'est pas
Alors,
respectée.
peut-être, mais ça, c'est très inconscient.
D'accord.
Parce que c'était l'exigence que j'estimais que si une cliente, voilà, elle devait avoir la qualité, la valeur du travail, elle venait, elle nous faisait confiance et elle devait avoir ce qu'elle voulait. Ça, c'était. Mais cette exigence, comme je dis, hein, je l'ai eue pour mes clientes, mais je l'avais pour moi. Je ne me pardonnais rien. Hein. Je travaillais énormément, je travaillais le soir, j'anticipais toujours beaucoup de choses, je préparais mes réunions pour mes collaboratrices, j'avais toujours une envie de créatrice de aller, un défilé, allez, on fait ça. Donc j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. Jamais je me posais, jamais, jamais, que ce soit pour mon développement personnel, que ce soit pour mon activité, mon salon, j'arrêtais jamais. Donc, alors, on pourrait se poser la question pour répondre à la tienne, oui, est-ce que finalement, maintenant, je pense que j'ai ma réponse, que oui, c'est une recherche inconsciente de reconnaissance, quand on n'en a jamais assez, qu'on veut toujours plus,
Plus.
mais j'ai aucun regret. C'est l'expérience que je
Oui,
devais vivre,
bien sûr, bien
mais
sûr. Mais sur le moment, tu le vois pas. Forcément, tu sais,
non.
c'est moi je donne très souvent, et je l'ai déjà cité à plusieurs reprises dans ce podcast, mais dans tout ce qu'on vit, il y a un cadeau.
Sauf que au moment d'une situation qui peut être délicate, douloureuse, on ne le voit pas le cadeau sur le moment, hein, parce qu'on n'est pas en capacité de déballer le cadeau, c'est parce qu'on est dans l'émotion. Mais parfois, on le voit après coup. Et aujourd'hui, c'est ce que tu es en mesure de nous dire. C'est que finalement, c'est ce que tu devais vivre et que tu es très contente d'être passée par là pour en être arrivée là où tu en es
c'est
aujourd'hui.
C'est ça. Mais je me dis toujours que... j'avais peut-être pas besoin de passer par tout ça, même si je sais aujourd'hui, je le dis aux clients patients, que nous avons choisi nos expériences de vie, même si c'est très très dur. Donc c'est pour ça que je mets. Mais à la fois, ouais, bon, pour m'aimer moi-même, j'avais peut-être pas besoin de passer par toutes ces souffrances.
J'aurais pu prendre conscience des choses avant.
Voilà,
peut-être.
Mais je suis dans le pardon, je suis dans l'acceptation des choses, mais à la fois, j'avais la tête dure quand même, hein, parce que bah oui, ça n'a pas été quand même toujours facile.
Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, tu as tenu ce salon, enfin ces salons-là, ouais. Pendant combien d'années ?
J'ai ouvert mon premier salon, ma fille. Donc j'ai ouvert mon premier salon à 26 ans. Donc, je n'ai pas calculé les années, là, voilà.
À peu près.
à peu près. Eh bien, plus de 30 ans. Hein.
D'accord.
Voilà, plus de 35 ans.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, après, en fait, dans mon dernier salon, où j'ai réuni les deux autres salons, en fait, j'en ai fait plus qu'un. J'ai revendu ce salon qui n'était pas encore d'ailleurs terminé de payer ni rien, qui était magnifique, que j'étais dans une progression incroyable. Voilà, j'avais pas de doute, hein, la clientèle c'était toujours là, des clientes qui me suivaient depuis des années, donc le salon marchait très très bien. Souvent on dit qu'on revend ou quand ça va mal. Non, mais moi j'ai revendu en pleine croissance.
D'accord.
Mais par contre je me sentais plus à ma place parce que le chef d'entreprise, au bout d'un moment, il a trop de rôles à jouer. Pour moi, à ce moment-là, ça ne correspondait plus à ce que j'aimais faire, c'est-à-dire que prendre du temps avec mes clients, j'adorais. Parler avec les clients, etc. Et plus on grandit, en fait, c'est ce que mon expérience, c'est que plus on grandit, plus il y a à s'occuper de la sécurité, il y a à s'occuper de la comptabilité, il y a à être un bon manager, un bon gestionnaire.
Voir la stratégie.
Rentrer dans les clous. Les chiffres de chacun, etc. Et là, je quittais mon rôle d'humain quelque part. Je devenais...
Ce que tu venais chercher finalement,
c'est ça.
Ce qui te plaisait dans ton métier initialement, dont tu nous as parlé en tout début, finalement, tu le perdais, c'est ça ?
C'est ça. J'ai l'impression de me perdre moi-même, tout court. Parce qu'être à l'affût, même si ça a toujours été des collaboratrices, du travail bien fait, je pense que, bon, voilà, je ne vais pas m'en vouloir pour ça, parce que aujourd'hui... voilà, je peux croiser une cliente, elle reste toujours satisfaite de ce que j'ai pu apporter, voilà, sans prétention, mais quand j'ai vendu mon salon, le nombre de lettres que j'ai pu recevoir, voilà, qui m'ont tellement touchée.
Tu avais vraiment la sensation de toi de te perdre.
Ouais, et d'avoir fait le tour.
D'accord.
D'avoir fait le tour de... Je me sentais plus à ma place parce que, voilà, tout simplement, c'était... Et je pense que j'étais arrivée au bout depuis l'âge de 16 ans, d'un métier. Et aujourd'hui, je suis convaincue qu'on n'est pas faite que pour un métier
dans notre vie.
Donc voilà, donc j'étais arrivée au bout. Donc j'ai pris ma décision contre vents et marées, parce que personne ne comprenait, que ce soit point de vue de ma famille, que mes clients, que vouloir vendre le salon. Je suis allée jusqu'au bout de ma détermination, parce que ça ne résonnait plus pour moi.
Ça, c'est au moment où tu en avais deux.
Le dernier. Voilà. J'avais eu un premier salon, après on m'a proposé un deuxième salon dans la même ville, et après, comme j'étais dans des galeries marchandes, ils ont refusionné par rapport à une enseigne. Moi j'ai refusionné aussi mes deux salons pour en faire qu'un, pour me déplacer, pour faire un plus grand salon avec mes deux équipes. Et puis quand j'ai pris ma décision, j'ai pris ma décision. J'ai dit stop,
j'arrête.
Voilà.
Est-ce qu'il t'a fallu du courage à ce moment-là ?
Alors, je crois que le courage, c'était ma détermination intérieure, parce que c'est là aujourd'hui, en t'en parlant, que je prends conscience. Finalement, ça fait revenir en arrière de peut-être des choses que je n'avais pas encore vues. Mais oui, c'est du courage, plus par rapport à l'extérieur, à la vie des autres, mais pas par rapport à moi, ce que je ressentais profondément au fond de moi.
Mais oui, parce que toi, tu ne te sentais plus alignée avec toi-même. Donc, intérieurement, toi, avec toi-même, tu étais honnête. De décider d'arrêter.
C'est C'est plus le regard des autres.
C'est ça.
De dire, mais pourquoi tu arrêtes ? Ça fonctionne bien, tu as des bons retours clients.
Exactement ça. Par contre, voilà, j'en pouvais plus du stress. J'en pouvais plus de faire les heures que je faisais. Mmh. J'avais plus de vie de famille. Comme j'étais, je le suis un peu moins, mais quelqu'un d'hyper entière, je m'investissais à 200% tout le temps. Donc finalement, je me perdais moi de qui moi j'étais. Donc je me reconnaissais pas, je m'aimais pas suffisamment pour reprendre. C'est aujourd'hui que je te parle en ayant pris conscience de tout ce travail que je fais. J'ai toujours fait sur moi, mais que j'ai fait d'autant plus encore après et de vu ce qui m'est arrivé après. Mais de comprendre que je faisais tout ça pour. J'en suis sûre aujourd'hui inconsciemment. Je n'ai aucun
bien
regret.
Sûr, bien sûr.
Mais j'avais de la valeur.
Aux yeux des autres.
Mais peut-être pas suffisamment de valeur à mes propres yeux. Donc, c'est aujourd'hui pourquoi je fais aussi, j'anime des ateliers sur la puissance de l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Parce que on se connaît pas, on est programmé, on a un schéma. J'ai vu des parents toujours travailler, jamais se poser, jamais prendre de vacances. Donc, je reproduisais aussi le même schéma. Et c'est comme ça qu'on se reconnaissait dans notre valeur.
Qu'on construit sa propre valeur.
Tout à fait.
Et à ce moment-là, quand tu as pris la décision de revendre, du coup, ce salon-là, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire, quelle allait être la suite, qu'est-ce qu'il allait se passer ?
Alors, j'avais décidé, en fait, de me prendre une année sabbatique parce que j'étais épuisée.
D'accord. Donc, pour te ressourcer.
Voilà, pour me ressourcer, revenir à moi, reprendre du temps le matin. Pas courir vite au salon. Ça a été une des premières choses. D'ailleurs, j'ai dit, quand je vais arrêter, mais c'est prendre mon petit déj tranquille, sans que je sois debout avec le café dans la main et ma tartine. Et voilà, je prendrai du temps. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais, bien évidemment, pour répondre à ta question, je savais que je voulais accompagner. Avec tous les stages que j'avais fait aussi en parallèle. Mais voilà, je pense que j'avais déjà beaucoup d'outils. J'avais déjà fait ma formation en hypnose parce que l'humain m'intéressait, donc tout ce que je faisais aussi à côté, j'avais fait pas mal de formations déjà, donc je savais vers
en
quoi
parallèle,
j'allais me diriger. En parallèle
toujours de ton activité c'est professionnelle
ça.
Tu avais fait par exemple une
c'est
formation
ça.
En hypnose
c'est ça, j'avais fait une formation avec Lise Bourbeau, écoute ton corps. Je faisais plein de stages déjà mais c'était pour mon propre développement
pour toi-même
au
moment où tu les faisais. C'était plus pour toi,
c'est
ton propre développement, que pour
c'est
en
ça.
Faire quelque chose d'un
exactement.
Point de vue professionnel. D'accord.
C'est exactement ça. Et puis c'était la passion, en fait, aussi à ce niveau-là. Et puis, quand je me suis arrêtée, donc dans cette année-là, c'est le tsunami de ma vie parce que j'ai la maladie qui s'est manifestée en moi, qu'était le cancer. Donc, j'ai eu un cancer de la peau et là, forcément, tout s'arrête. Et là, c'est une autre remise en question, en fait. C'est OK, avec, sans prétention, mais tout ce que j'avais déjà appris, le biodécodage de la maladie, qu'est-ce que la maladie vient nous dire, etc. J'ai dit, oh,
c'est quoi le message, là ?
Alors, il y en a beaucoup des messages. Donc, c'est vrai que je voudrais pas enfermer dans
Bien sûr.
Parce qu'il y a plusieurs messages, en fait. Il y a plusieurs sens à la maladie. Il n'y en a pas qu'un.
Bien sûr.
Là, moi, une chose est sûre, c'est que j'avais vécu des gros traumatismes dans mon entreprise, subi des choses violentes, beaucoup de violence, et que j'ai compris qu'on en avait après ma peau. Qu'on en voulait après ma peau, ça a été une mémoire d'énorme souffrance parce que j'ai rien vu arriver et que là, mon corps est en train de me dire vraiment quelque chose qui n'était pas guéri, qui est un traumatisme bien dans la peau, implanté dans la peau et que j'avais des choses à comprendre. Alors tsunami forcément parce que qui dit cancer a dit peur.
Bien sûr.
Aujourd'hui, je n'ai plus du tout, et je le dis bien, là je parle au passé, aujourd'hui je n'ai plus du tout cette façon de voir la maladie, mais je parle bien à l'époque. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes en phase de maladie et je n'ai plus ce discours. Donc là, je parle vraiment à cette période-là.
À ce moment-là, comment toi tu l'as vécu quand t'es arrivée dans ta vie.
C'est ça. Et là, ma plus grosse peur, c'était d'annoncer à mes enfants.
Moi, j'avais quel âge à l'époque ?
Alors, c'était quand même assez grand, puisque Geoffrey devait avoir, que je dise pas de bêtises, 27 ans et Tiffaine 3 ans de moins.
Mmh. Voilà, mais bon, ça reste mes petits quand même, hein, parce que ben, on a appris aussi cancer d'y mourir, et moi j'en étais encore restée à ces croyances-là. Donc voilà, mon plus gros, franchement, dans ma maladie, le plus difficile a été cela. Comment je vais le dire ?
L'annonce aux enfants.
L'annonce aux enfants. En sachant tout ce que je savais, que la manière que j'allais le dire, où j'allais le dire, comment j'allais faire, que eux, suivant où ils en étaient, il ne fallait pas que je le dise, par exemple, le soir, ce que je dis pour dormir, ils ne pourront plus. Enfin, voilà, je me un tas de questions dans le cerveau. Une horreur. Hein. J'avais l'impression que je ne sortais pas de ma tête, que je trouvais de toute façon aucune issue de comment le dire au mieux pour les protéger.
Aucune issue positive, finalement.
Pour leur dire au mieux, pour les protéger. Et puis, bon, ben voilà, j'y suis quand même arrivée. J'ai essayé de faire au mieux, en tout cas. Et puis après, ben, ça a été de me dire, bon, ben, ok, ma maladie, elle a un sens. Je vais la comprendre. Et au lieu de m'en faire une ennemie, je vais m'en faire une amie.
Ça a été dès le démarrage que tu as réussi à te dire ça?
Ah oui.
D'accord.
Vraiment. Ben oui, parce que j'ai l'impression que je n'avais pas fini ma vie. Je me disais, j'ai encore plein de choses à faire, moi.
Donc
je ne veux pas partir.
C'était pas envisageable pour toi de partir.
Et là, je ne peux même pas expliquer ce qui se passait en moi. Il y avait une force qui me disait, mais non, mais non. Tu as encore des choses à donner à la Terre, tu as encore des choses à faire. J'ai encore envie de rire, j'ai encore envie de m'amuser, j'ai encore envie de profiter de mes enfants, mes petits-enfants, être heureuse. Et là, j'ai changé toute ma vie. C'est à partir de ce moment-là que, bon, voilà, je respecte énormément mon ex-époux, mais à la fois, on ne se comprenait pas depuis longtemps, mais je pense que je ne voyais rien. Et que toujours, un peu dans le rôle de mère, on reste pour les enfants. Mais bon, sans ce, aujourd'hui, nous sommes amis, tout va très bien. Mais à cette époque-là, ben, je n'avais pas du tout les mêmes façons de vivre que lui. Je faisais déjà plus attention à mon alimentation, je regardais moins la télévision, voilà. Et je me suis aperçue que si je voulais vraiment me guérir, il fallait que je prenne soin de moi, que j'écoute mes besoins et que je fasse ce qui était bon pour moi. Et la seule solution, parce que j'en avais pas d'autre, ça a été de partir, sans divorcer tout de suite. Hein. Je suis partie pour me guérir. Donc, j'ai quitté tout mon bien matériel, tous mes biens matériels. Et je suis partie, j'avais une belle maison, je suis partie dans un petit appartement, tout petit, parce que je démarrais du coup avec plus rien. J'avais qu'une idée en tête, c'était « je veux guérir ». Donc, le matériel ne prenait plus du tout la même importance qu'il aurait pu en avoir précédemment. Et là, ben, j'ai mis tout en place, l'alimentation, parler à mes cellules, me faire accompagner par différentes approches thérapeutiques.
Comme par exemple ?
Aller voir des gens bienveillants. Alors, ben, par rapport à des approches,
tes approches,
alors j'ai fait...
Au-delà de la médecine, parce que j'imagine qu'il y avait quand même un protocole médical.
Le protocole médical, ben, je le suivais, puisque j'allais... bon, j'avais pas de chimio, j'avais pas tout ça, mais j'allais régulièrement à mes consultations pour voir où ça en était. Je me suis fait opérer, enfin j'ai suivi tout ce qu'il fallait, bien sûr.
Mais en parallèle de ça, écoutée pour mettre en place ce dont toi tu avais besoin.
Exactement.
Pour te soigner, te guérir.
C'est ça. Donc après, ben, au niveau de médecine alternative, ben, déjà, ça a été mon alimentation. Et puis, j'ai cherché beaucoup aussi, dans des revues, ce qu'il ne fallait pas faire. Aussi, donc, comme plus manger de viande rouge, Après, ben, je me suis fait aider en méditation, en yoga, j'en ai fait, mais pas mal de choses en tout cas. Et puis, un groupe d'amis qui était toujours là, mais qui venait pas me plaindre. J'ai choisi aussi les gens que je voulais qui m'entourent pour pas qu'ils soient en transfert de leur propre peur. Puisque moi je voulais au contraire avancer, à pas être dans la peur et de me guérir. Donc j'ai eu une chance inouïe d'avoir 8 amis à ce moment-là qui soit m'apportaient un bouquin, soit me disaient tiens j'ai vu ça pourrait, qu'est-ce que t'en penses, tiens si on allait au salon zen parce qu'il y a peut-être des choses qui pourraient t'intéresser.
Ils étaient dans la même énergie que toi finalement.
Ouais, c'est ça, dans le fait de bah non je suis pas malade. Ça voulait pas dire que j'étais dans le déni, hein. du tout j'en parlais ouvertement, ni dans le, mais je voulais avoir des énergies positives autour de moi parce que moi, j'allais vers le positif.
Et on sait que le positif attire le positif et emmène le positif et le négatif.
C'est ça.
Ouais. Donc, tu as fait le choix de t'entourer de personnes qui allaient te tirer vers le haut.
Exactement.
Plutôt que te tirer vers le bas, potentiellement.
Et je le redis, sans être dans le déni de ce qui m'arrivait.
Bien sûr.
C'est pour ça que oui, je me suis fait soigner autant sur tous les plans. Sur le plan médical, j'ai écouté, mais aussi sur... pourquoi se limiter ? Moi, je suis quelqu'un qui est non limite. Donc, voilà. Mmh. Mais par contre, aujourd'hui, pour accompagner dans ce que je fais, je dis toujours aux gens, prenez ce qui résonne pour vous. Mmh. Parce que ce qui résonne pour l'un ne résonne pas forcément pour l'autre. Bien Donc, sûr. Moi, on m'avait donné beaucoup d'outils. Mais j'ai pris aussi ce qui me parlait à moi. Voilà. Donc, par exemple, parler à mes cellules tous les jours. Oui, ça me parlait. J'ai suivi des méditations sur Internet avec Guy Corneau. C'était de parler à ses cellules. Donc, je l'ai fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, voilà. Donc, j'ai pris des choses qui résonnaient pour moi.
Et tu penses que donc, c'est tout ça, qui t'a, cet ensemble-là, finalement, qui t'a sorti de la maladie ?
Alors, en tout cas, je suis là. En tout cas, j'ai envie de dire que... ça dépend certainement du schéma et de l'âme de chacun aussi, de ce qu'il avait choisi de vivre. Hein. Je ne veux pas dire que moi, ce que j'ai fait, c'est pour tout le monde. Ce que j'en tire, par contre, ce que je pourrais répondre à cela, c'est que ce que j'en tire aujourd'hui comme enseignement et qui me permet de rebasculer après sur ce que je fais aujourd'hui, c'est prenons soin de nous, tout simplement. Mmh. Moi, ce que j'en ai compris aussi, c'est que je donnais beaucoup, je voulais que tout soit toujours parfait pour tout le monde, mais je ne m'écoutais pas dans mes véritables besoins. Oui. Donc, on peut dire que je ne me reconnaissais pas dans l'amour pour moi-même et que j'attendais de l'amour autour de moi. Ça ne veut pas dire que je n'en donne pas aujourd'hui et loin de là.
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, je m'écoute moins.
On a souvent tendance, je pense que tu vas me rejoindre... moi, je rencontre, dans les gens que j'accompagne, je rencontre souvent des gens... On a un esprit, en fait, qui est très cartésien. C'est soit on s'occupe des autres, soit on s'occupe de soi. Hein. Soit on s'occupe trop des autres et pas du tout de soi. Soit on s'occupe que de soi et pas des autres.
C'est ça.
Parce que le cerveau, il nous dit c'est noir ou c'est blanc, c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Alors qu'en fait, oui, le noir existe et le blanc existe, mais le gris aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'occuper de soi.
Bien sûr.
Ça ne veut pas forcément dire être égoïste. Et on peut aussi s'occuper des autres en parallèle. Ce que là, toi, tu es en train de dire, c'est que finalement, tu t'occupais trop des autres et tu t'étais oublié. Et que donc, tu t'es occupé de toi parce que la vie t'a amené une situation qui a fait que tu avais besoin de t'occuper de toi. Et que finalement, aujourd'hui, on peut dire que tu as trouvé ce juste équilibre entre s'occuper de toi et s'occuper des autres.
Alors, je pense que oui. Et puis, quand on est pour accompagner des gens aujourd'hui dans le service, quand on est dans des métiers de service, on est programmé à aider l'autre ou en tout cas être au service de l'autre et pas au service de soi-même. Parce qu'on s'oublie. On s'oublie complètement. On est programmé. Déjà, quand on commence des métiers très jeunes où on est au service de l'autre, il y a un moment, on s'est complètement oublié. Et je le vois pour certaines personnes que j'accompagne et qui aussi font cette profession ou d'autres. Hein, voilà.
Oui, peu importe la forme. Importe,
mais voilà. Sûr. Alors, j'ai envie de te dire ce qu'on peut prétendre de l'égoïsme. Et là, pour des stages que j'anime avec une collègue, qui peut choquer certaines personnes, je pense que non, il faut s'occuper de soi, parce qu'en m'occupant de moi, mais dans le sens juste du terme, d'être à l'écoute de mes besoins, de mes ressentis, je vais être beaucoup plus zen, beaucoup plus en paix pour pouvoir m'occuper des autres. Mais si moi, je suis en manque... Mais si moi, si j'attends que ce soit quelqu'un qui comble mes besoins, je vais être en frustration. Si je suis en frustration, comment je vais aider l'autre ? Je ne peux pas accompagner quelqu'un aujourd'hui de quelque chose que je n'ai pas travaillé sur moi. Ce n'est pas possible. Donc, je renverse en disant non, ce n'est pas de l'égoïsme de penser à soi. Si ce que j'ai de plus cher, et je le dis souvent, mes enfants, aujourd'hui aussi mes petites filles, et je dis si je n'ai pas quelque chose... ils ont besoin de quelque chose et que je ne l'ai pas moi. Comment je fais pour leur donner ? Pourtant, si je les aime, je ne peux pas leur donner. C'est, pour moi, c'est un leurre de penser qu'on peut donner à l'autre ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Mais je ne parle pas de matériel, bien de sûr. Choses, je vais tout garder. Ça, c'est peut-être l'égoïsme. Mais derrière, se cache la peur de manquer. Donc là, on est sur un autre sujet.
Comment, à ce moment-là, comment ta vie professionnelle a basculé suite à ça ?
Alors, ma vie, elle a basculé après. Donc, j'ai rencontré mon collègue ostéopathe lors d'un salon. Et puis, lui voulait venir s'installer aussi sur Troyes. Il avait un cabinet à Paris. Moi, je n'étais pas encore prête totalement. J'avais un peu des peur, pas de clientèle, je vais démarrer un loyer.
Tu savais ce que tu voulais faire à ce moment-là ? Tu savais que tu voulais t'installer
en fait, je pense que je l'ai su avant ma maladie quand même, mais ça n'a fait qu'amplifier le fait d'aider les gens à prendre soin d'eux, avant quoi que ce soit burn-out, dépression, maladie. Et c'est aujourd'hui, c'est un message haut et fort que je veux porter, mais prenez soin de vous. Parce que si on prenait soin davantage de nous-mêmes, il me semble en tout cas qu'on n'en serait pas au burn-out, aux dépressions, aux maladies, de la manière même si on est venu vivre des expériences. À mon sens, on pourrait peut-être avoir moins besoin de passer par des chocs, parce que c'est les chocs qui vont entraîner par la suite
des changements. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça, tu savais avant ta maladie que tu voulais que donner cette orientation-là dans ta vie professionnelle, que tu voulais accompagner les autres dans leur transformation, dans leur propre développement personnel. Tu savais déjà comment tu voulais le faire ou ça s'est construit petit à petit?
Non, ça s'est construit petit à petit, forcément, parce que c'est venu d'autant plus avec la maladie et tout. Il y a quelque chose qui s'est développé en moi, parce que quand on passe entre la vie et la mort, on n'a plus du tout le même regard sur la vie, mais plus du tout. Plus du tout, plus du tout. Et de ce fait-là, après, j'ai dit, mais voilà, c'est il faut que j'aide les gens sans être la sauveuse du tout, bien mais sûr. Qui voient en eux leur tout ce qu'ils ont comme potentiel aussi dans leur lumière, leur puissance intérieure qu'on oublie trop souvent. On se connaît sur notre valeur extérieure, mais très peu sur notre valeur intérieure. Donc on se voit, on prend la valeur de la profession, d'une étiquette, d'un salaire, etc. Mais on s'est oublié.
Ouais, donc, j'ai lu de toi, tu écris « Mon accompagnement, c'est réveiller en vous votre véritable identité ».
C'est ça. C'est exactement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est d'être qui vous êtes vraiment dans votre véritable identité. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être bien souvent. On s'identifie trop à des métiers.
Des pelures identitaires, comme l'appelle Serge Marquis. Tu as déjà dû lire cet auteur.
C'est ça, on peut dire.
Il parle de pelures identitaires.
Voilà.
Mais la vraie question, c'est qui se trouve en dessous de ces pelures identitaires. Et il met derrière les pelures identitaires, justement... un métier, une profession, toutes les possessions, c'est-à-dire une maison, une voiture, une famille, etc.
C'est exactement ça. Et là, aujourd'hui, c'est ça, c'est mon accompagnement, il est là. C'est d'accompagner les gens à retrouver leur véritable identité.
Comment tu les accompagnes, justement? Quels outils, toi, tu utilises? Parce que finalement, toi et moi, on a le même objectif.
C'est ça.
Accompagner les gens et chacun avec ses propres outils. Et aussi chacun avec sa propre personne.
Bien sûr.
Quels sont, toi, les outils que tu utilises?
Et c'est vrai que pour répondre à ça, il n'y a pas de meilleurs outils les uns que les autres. C'est de toute façon, on attire aussi la cliente qu'on doit attirer, clientèle qu'on doit attirer. Et je pense que beaucoup d'outils sont complémentaires. Contrairement, moi je pense qu'il n'y a pas d'enfermement et par rapport à ça. J'ai pratiqué l'hypnose ericksonienne qui s'est aujourd'hui traduite en hypnose spirituelle.
Tu peux en dire deux mots de l'hypnose spirituelle pour ceux qui ne connaissent pas, s'il te plaît?
Alors, l'hypnose spirituelle, ça va être en fait, je suis thérapeute de l'âme, donc je vais contacter au niveau de la personne quand elle vient. Je vais faire plutôt comme ça, si tu veux bien. La personne, quand elle vient pour certaines difficultés, certaines résistances, certains schémas qui se répètent et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors, de ce fait, moi, je vais intervenir, je vais contacter son âme, parce que mon âme, c'est un don, je crois aussi, qui s'est développé, que je n'avais peut-être pas vu, mais c'est un don, de pouvoir communiquer avec l'âme de la personne. Et de ce fait-là, je vais pouvoir, selon ce que la personne va me dire, avoir une lecture. Bien évidemment, je vais écouter, je vais écrire, mais je vais entendre encore et voir autre chose de ce que la personne me dit.
Ce qu'elle-même ne voit pas, n'entend pas, exactement, ou ne comprend pas.
Exactement, d'accord. C'est ça. Et de ce fait, on va pouvoir aller voir les traumatismes du passé qui sont réactivés par un événement qui réactive un souvenir du passé non guéri, mais qui était enfoui, qui était oublié, mais qui était toujours là, au niveau cellulaire, au niveau des émotions qui sont pas guéries. D'accord. Et on met un couvercle dessus, on met un couvercle.
Et les situations de la vie, c'est ça, réactivent les blessures.
Oui.
Tant que la blessure n'est pas guérie, et c'est en ça que les personnes ne comprennent pas, en fait.
C'est ça.
Que les schémas se reproduisent.
C'est ça. D'accord. Et on porte aussi l'héritage familial, côté père, côté mère, sur plusieurs générations. Donc, en plus, comment trouver sa véritable identité si on a les programmes aussi de fidélité et de loyauté à notre maman et à notre papa, sur toute la lignée, voire cette génération. Donc, c'est bien en, en travaillant sur soi et en les libérant qu'on va retrouver notre identité. Hein, comme c'est, voilà, je vais avoir des bonnes pensées positives, et ce qui est super bien, je suis pour la psychologie positive, mais si je n'ai pas libéré mon passé, je vois pas comment mes pensées, mes paroles positives vont pouvoir être aidantes. Par contre, si je libère ce qui m'appartient pas, quelquefois, ou des souvenirs, hein, quand on est dans le ventre de notre maman, on a gardé bien déjà des informations.
Bien sûr.
Et en fait, on est tous composés comme ça. C'est nos, on a tous fait au mieux, mais il y a beaucoup de souvenirs quand même inconscients qui nous ont touchés, qui nous ont marqués et qui sont encore cristallisés dans nos cellules.
Et qui sont inconscients aujourd'hui, mais effectivement.
Inconscients, c'est pour ça que je travaille avec l'inconscient.
Bien sûr, d'accord. Hein,
et l'hypnose spirituelle, voilà, c'est quand je dis des guérisons, ben oui, parce que là, on va aller, même moi, je ne sais pas ce qui va se passer avec la cliente et ça me va bien. Comme ça, je n'ai aucun pouvoir sur la personne parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Tout sera juste pour elle de ce qui va ressortir à ce moment-là qui doit être libéré.
Oui, donc tu vas libérer des choses qui relèvent de l'inconscient. D'accord.
Voilà. Okay.
Donc ça fait partie des outils que tu utilises.
C'est ça. Après, je pense que c'est un principal outil parce qu'en fait, c'est... Et je dis toujours, c'est pas que les outils qu'on a utilisés, c'est ce qu'on est nous-mêmes. Si nous-mêmes, nous sommes en tant qu'accompagnants déjà, je dis pas, j'ai toujours du travail, je travaille toujours
bien sûr,
sur moi.
On a toujours.
Il y en a toujours des couches et des couches qui reviennent. Hein, mais en tout cas, on avance au niveau de la conscience, on monte en élévation de conscience par l'outil que nous sommes nous-mêmes. Parce que je pourrais faire toutes les formations que je veux. On va faire tous la même formation, on va tous en ressortir quelque chose de différent. Donc c'est bien en fonction de ce qu'on est nous, et c'est vers ça que je tends aujourd'hui d'accompagner, que ce soit des personnes comme les thérapeutes, d'autres coachs, d'autres c'est aller se révéler mais pleinement à notre lumière intérieure, à qui nous sommes avec nos talents, nos dons et nos capacités. Je suis alors c'est une croyance peut-être, mais je suis persuadée qu'aujourd'hui, pour être épanouie, il faut être dans ce dont on est fait pour être dans son métier. Et c'est pour ça qu'un thérapeute, un boulanger, un boucher, un garagiste, le principal, c'est qu'il soit en alignement et en paix avec ce qu'il fait.
Alors, comment tu fais, selon toi, quand la personne ne sait pas, n'arrive pas à comprendre ce pourquoi elle est faite ?
Eh bien, ça commence par ce que je viens déjà de dire. C'est déjà de se libérer de tous ces programmes du passé qui ne l'appartiennent pas. Elle peut même être faire un métier par fidélité et loyauté. On le connaît tous, parce que papa aurait voulu faire ce métier.
D'accord.
Ou pour pas décevoir papa et maman, je vais faire ça. Même si on a 40 ans, c'est inconscient. L'enfant reste très longtemps tant qu'on s'est pas libéré de l'enfant qui attend la reconnaissance de papa maman pour être adulte et s'aimer lui-même. Et après, c'est en libérant tous ces programmes de fidélité, de loyauté, qui va amener progressivement la personne à se révéler.
À se donner l'autorisation, finalement, d'exister pour elle-même et pour qui elle veut être, et non plus au travers
des filtres
ou des yeux de,
c'est ça,
des parents,
du regard des
autres.
J'attends plus le regard de l'autre pour être aimée.
Je m'aime moi-même,
c'est ça. je me révèle à qui je suis, dans mon couple intérieur, dans l'enfant que je suis. Je suis une bonne maman pour moi, je suis un bon papa pour moi. De ce fait, je suis libre. Et qu'est-ce qu'on cherche tous? À être libre. Qu'est-ce qu'on cherche tous? C'est le bonheur. Donc, c'est d'amener les gens. Et quand on arrive à un état d'équilibre, qu'on est libéré au mieux de nos frustrations, qu'on en a tellement des frustrations depuis l'enfance, j'ai pas eu le biberon à l'heure, je suis frustrée, libéré de nos blessures, de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, automatiquement, plus on va se libérer de ces blessures-là, plus on va être en paix avec nous-mêmes. Donc, et plus je suis en paix, moins j'ai besoin de la reconnaissance de l'autre. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, ok.
À ton avis, dans les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le plus les gens d'être en paix avec eux-mêmes? Qu'est-ce qui nous empêche?
Très honnêtement, j'ai l'impression que c'est... On cherche tous le bonheur et on a peur de notre propre lumière. Et on a peur du bonheur. Pour être en paix, je crois vraiment que si les gens ont peut-être peur de cette paix, finalement... Parce que quand on ne connaît pas quelque chose, moi aujourd'hui je peux en parler parce que je suis en paix, tout cas, je suis sur le chemin vraiment de la paix. Et je peux en parler aujourd'hui, mais quand j'y étais pas, bah, je savais pas.
Donc c'est quoi, c'est la peur de l'inconnu, c'est
bien sûr qu'on a peur de l'inconnu. On a la peur d'aller voir qui on est, d'aller voir notre véritable identité, notre véritable lumière en nous.
Parce que pourquoi on a peur? On a peur de d'être déçu, peut-être, de
l'inconnu.
Qui on est vraiment.
L'inconnu. Combien de personnes aujourd'hui peuvent rester dans un lieu, dans un travail, ou dans un couple, ou dans une maison, où ils sont plus heureux, mais se sentent en sécurité parce qu'ils connaissent.
Ou en tout cas, c'est confortable.
C'est sécurisant parce qu'ils connaissent. Donc, on a bien peur de l'inconnu. D'accord. Et que partir sur un faire autre chose, tout lâcher, ben c'est quoi? C'est l'insécurité. Donc, j'ai peur de l'insécurité, donc je préfère rester dans quelque chose que je ne suis pas bien, mais je connais.
C'est moins dangereux.
Ben oui.
En tout cas, c'est plus confortable de rester comme ça que de partir dans l'inconnu.
Ben oui, parce que l'inconnu, ben, on ne connaît pas. Donc,
il y a danger.
Il y a danger.
Donc, potentiellement, il y a danger.
C'est ça.
Il y a danger.
C'est ça. Donc, insécurité. Mais c'est une fausse insécurité. On le sait tous aujourd'hui. Enfin, tous. De plus en plus de personnes
plus en plus.
Reconnaissent que voilà. Mais je l'entends au quotidien. Finalement, c'est pour ça qu'il ne faut pas brusquer les gens, parce qu'il y a un cheminement. Et puis, suivant notre insécurité avec nous-mêmes, suivant la place qu'elle prend, cette insécurité, eh ben, ça va être plus je suis dans une insécurité, moins je vais oser. Moins je vais oser avoir confiance en moi, moins je vais oser avancer dans la vie. C'est cette insécurité. Et dans mon travail, c'est aussi ça. C'est d'accompagner dans le travail des chakras, les libérations. C'est aussi d'accompagner la personne à trouver cette confiance, cette sécurité en elle. C'est la sécurité qui nous fait avancer.
C'est ça. Tu conduis les gens à se reconnecter à eux et à se sentir en sécurité avec eux-mêmes.
C'est ça. Mmh. Et de ce fait, ce ne sera pas une fausse illusion d'être en sécurité extérieure. Parce que c'est de l'illusion.
Oui, bien sûr. Et du coup, une fois qu'on est en sécurité, on se sent plus à même d'affronter. J'aime pas trop ce mot-là parce qu'on a l'impression que du coup, c'est difficile. Mais en tout cas, de sortir de sa zone de confort.
C'est ça. On ose. C'est oser. Oser prendre des risques. Et c'est la confiance en soi. Et aujourd'hui, on cherche tous cette confiance en soi, à mon sens, trop souvent à l'extérieur.
Je sais que tu aimes beaucoup aussi parler de l'amour de soi.
Oui.
C'est souvent un terme qui, en tout cas, moi, je le constate aussi. On est frileux de parler de l'amour de soi parce que justement, derrière, on met le terme d'égoïsme, bien souvent, derrière l'amour de soi. C'est prétentieux de s'aimer. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça?
Alors, oui. En fait, en travaillant, quand on fait ce chemin, sur soi, et ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est que j'ai compris derrière tout ça, c'est que je ne m'aimais pas suffisamment.
Tu veux dire quand tu as traversé toutes les épreuves de la vie?
C'est ça, il y avait des moments où j'attendais la reconnaissance. J'étais frustrée peut-être si une cliente n'était pas satisfaite, mais qu'est-ce qu'on attend derrière si on est vraiment... Ben, on attend que la personne dise c'est bien, et peut-être j'ai pas assez entendu petite fille que tout ce que je faisais c'était bien et que j'avais peut-être envie de ça. Donc l'amour de soi, ben, ça commence là, et ça, on sait que de toute façon dès la petite enfance, l'estime de soi, la confiance en soi quand on est adulte est la trame de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, dans la confiance en soi, l'estime de soi. Donc ça, si c'est tout le chemin peut-être de l'adulte à travailler. Donc l'amour de soi, c'est s'aimer pour qui on est véritablement, avec nos failles, avec nos, ce qu'on peut entendre comme défauts, nos expériences de vie. C'est se reconnaître dans un être incarné, humain, et qu'on est venu vivre des expériences. Et l'amour de soi, aujourd'hui, ben, j'anime avec une collègue la puissance de l'amour de soi. Nous l'avons travaillé ensemble, donc il est sur 3 niveaux. Nous avons vécu, rien que par l'expérience de mettre ce stage en place, mais des expériences étonnantes, où on a pu s'apercevoir là où on avait nos failles de l'amour de soi aussi.
Vos propres failles à vous,
ah
c'est
ben
ça?
Oui, nos D'accord. propres failles. On a bien... Ça n'a pas été si simple. Aujourd'hui, quand on l'anime et qu'on voit des fois les personnes qui disent « Waouh !» qui se rendent compte d'où ils en sont dans l'amour d'eux-mêmes, ça peut faire froid un petit peu et donner des frissons. Mais c'est toujours dans un but bienveillant pour dire, bah voyez, il y a encore du chemin pour vous aimer vous-même. Et là, on est là aussi pour vous y accompagner. Et pour répondre à ta question, l'égoïsme, est-ce que c'est égoïste de ne pas pouvoir donner à l'autre ce qu'on ne se donne pas à soi-même? Si je n'ai pas, moi, je ne peux pas donner à l'autre. Je ne peux pas. Ça ne m'a pas été donné, donc je ne peux pas. Si, alors, même si on ne parlait pas d'argent, Mais si aujourd'hui, ce que j'ai de plus cher, mes enfants, que je veux leur donner quelque chose, même l'amour ou de l'argent, tout ça, si je ne l'ai pas moi, comment je fais pour leur donner? Est-ce que c'est ça être égoïste? Et moi, j'ai ma définition de l'égoïsme.
Tu veux la savoir?
Oui, je veux bien, s'il te plaît. Alors, l'égoïsme pour moi, alors hormis le dictionnaire, l'égoïsme, c'est, je verrais plutôt quelqu'un qui est dans ses peurs, qui a peur de perdre. Et le fait de prendre, peut-être même à l'autre, peut-être maladroitement d'ailleurs, mais, et de garder pour lui, ça le sécurise. Et on en revient à la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. Si moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de perdre, je ne vais pas perdre non plus, hein, parce qu'il y a la loi d'attraction aussi. Donc, je ne vais pas perdre. Donc, je vais avoir envie de donner. Bien sûr. Malgré tout, c'est clair et net. Si je te demande aujourd'hui, Catherine, bah tiens, Catherine, j'ai besoin de ça et que tu ne l'as pas, est-ce que tu peux me le donner? Alors, par contre, tu risques d'être frustrée parce que ton cœur, toi, va avoir envie de me le donner.
Bien sûr.
Tu vas dire, mais si, Marie-Thérèse, je voudrais bien t'aider, moi, parce que je suis quelqu'un voilà, qui aime les gens, j'aimerais te donner. Mais si tu ne l'as pas, comment tu fais? Alors, bah, l'amour, c'est la même chose. Si je ne peux pas donner aux autres ce que j'ai pas.
Et du coup, l'égoïsme, c'est plutôt le fait d'attendre des autres qui répondent à nos propres besoins, c'est ça?
Non, je ne le vois pas comme ça. L'égoïste, c'est, je pense, c'est quelqu'un qui est dans d'énormes peurs, dans d'énormes frustrations, un manque d'amour de lui-même.
Qui reste bloqué avec ses peurs et ses frustrations.
Ben oui, un manque d'amour de lui-même. Il voit plus son côté faille, sombre, voilà, de lui-même. Mais il ne voit pas qu'il a tout un potentiel. Hein, donc il garde, il conserve. Comme ça, des fois qu'il y a la guerre, je rigole,
oui,
hein,
bien
mais
sûr.
Je me moque pas de
bien
ça.
Sûr. Non,
mais je dois garder parce qu'en cas où.
Ou parce qu'aujourd'hui on est dans cet état d'esprit, on a peur de manquer à un moment donné, donc on garde au maximum.
C'est ça. Mais on n'est plus en temps de guerre. Hein. Donc voilà. Et puis l'amour de soi, au-delà de ça, c'est que je pense que plus je suis à écouter mes besoins, respecter mes besoins, me faire plaisir, ne pas attendre que ce soit bah tiens, il m'a pas offert ma rose, c'était Saint-Valentin, je l'ai pas eu. Donc je vais être frustrée. Bah non, parce que moi j'avais décidé que je m'aimais bien puis je pouvais m'acheter une rose. Voilà, je prends un exemple tout banal hein, parce qu'on n'était pas loin de Saint-Valentin. Mais de ce fait, je suis pas frustrée parce que moi je m'aime déjà suffisamment pour me le faire. Donc je suis plus dans l'attente que l'autre y m'aime, du regard de l'autre pour qu'il m'aime.
Mais malgré tout, on a quand même besoin d'amour et on a besoin parce qu'on est des êtres d'émotions, des êtres de relations, on a quand même besoin des autres, on a besoin d'appartenir, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer.
Bien sûr. Mais ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire je me construis dans cet amour et plus moi je vais aimer, plus mon cœur va s'ouvrir parce que plus moi je me suis déjà donné ce qui j'ai pas de manque. Je ne suis pas dans les frustrations. J'ai pas de manque. Donc, j'ai toute la possibilité de donner.
C'est du plus.
Mais bien sûr, mon cœur, il va encore plus s'ouvrir. Je ne vais plus avoir besoin d'attendre ou je vais pas. Mon cœur, il est tellement ouvert que je donne. Mais je donne, mais parce que moi, je me suis déjà remplie de mes manques. Je ne vais pas aller mettre de l'essence dans une autre voiture si mon réservoir est vide. Hein.
Et comment, à ton avis, comment on fait alors pour atteindre ce niveau d'amour de soi?
C'est du travail sur soi.
Du travail de longue haleine.
Alors, j'ai envie de dire oui et non. Ça dépend où on en est au niveau de notre conscience, déjà. Le chemin qu'on a choisi de vivre sur cette terre. Et puis, c'est aussi l'amour de soi. C'est aussi de prendre conscience. Il y a des méthodes, comme la méthode Ho'oponopono, une philosophie Ho'oponopono, qui nous permet aussi... de voir effectivement que l'autre est aussi le miroir de moi-même. Donc, si cette personne-là, elle est comme ça, ben, elle est en manque, ben, c'est que moi aussi, je suis en manque. Et ça nous permet de nous nettoyer aussi, nous libérer nous-mêmes déjà. Donc, il n'y a pas qu'une question d'aller chez une thérapeute. Bien sûr qu'on va aller peut-être encore plus loin, plus fort, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'outils disponibles à la portée de tout le monde pour faire un travail sur soi, que ce soit par des lectures inspirantes, que ce soit par des vidéos, on a
par
tout aujourd'hui.
Par des podcasts.
Par exemple, pardon.
Je t'en prie.
Effectivement, que ce soit par des ateliers, des
peu
stages.
Hein. Finalement, chacun doit trouver son chemin qui lui convient et peu importe la forme. Finalement.
Exactement, c'est comme je disais, pour se guérir ou voilà. Et c'est quelque chose qui doit nous appeler. Tiens, ça me résonne. Souvent, les clients me disent, mais alors, qu'est-ce que vous me conseillez comme livre? Alors, je vais donner un panel, puis je vais dire, mais vous savez le mieux. Hein. Allez dans une librairie où vous achetez vos livres et puis
laissez-vous porter. Il y a un livre qui va résonner pour vous, alors que c'était peut-être pas ça que moi je vous aurais dit, qui était juste à ce moment-là,
bien sûr,
pour vous. Parce qu'on a un guide intérieur qui sait toujours ce qui est bon pour nous.
Et on ne l'écoute pas souvent.
Et on ne l'écoute pas. C'est ce ressenti. C'est souvent porté sur le mental.
Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on doit apprendre. Enfin, de plus en plus. Je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais en tout cas, on nous a appris à prendre des décisions de manière très cartésienne. C'est-à-dire de quel livre il me faut, lequel, le meilleur, et sans se dire bah tiens pourquoi celui-ci m'attire, je sais pas pourquoi, mais celui-ci m'attire, tiens je vais le prendre, je vais le choisir, je vais prendre celui-ci.
Et là c'est la voix de l'âme qui sait ce qui est bon.
Mais
et
comme on n'arrive pas à l'expliquer de manière très cartésienne ou scientifique, ben on l'écoute pas. C'est ça.
Et pourtant on a tous des intuitions, on a tous des ressentis. Tous. Un soir, les gens disent non, mais j'ai dit ah bon ? Et pourtant, ah oui, c'est vrai qu'un jour j'ai fait ça, ben, je l'ai fait au ressenti. Et ben voilà. Donc écoutez cette voix-là, elle sait ce qui est bon pour vous. Le mental, il est limité.
Et tout ce qu'on vient de se dire, comment tu le transposes dans le monde de l'entreprise aujourd'hui ? Est-ce que c'est les mêmes schémas ?
Alors, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, là où je commence seulement en fait à développer, alors j'étais. Dans la gestion du stress et des émotions, aujourd'hui, ça c'est une nouvelle configuration, parce que le stress, c'est les peurs, c'est les enfermements. C'est dans la cohésion d'équipe, c'est libérer aussi, alors pas que, mais libérer la violence, par exemple, entre les personnes, là où on n'est pas dans l'unité, on est plutôt dans la concurrence, ou plutôt qui fait que ça entraîne bien, bien souvent un mal-être au niveau des performances. Des résultats même de la performance au niveau des entreprises, et aussi accompagner donc dans la gestion du stress des émotions sur la santé émotionnelle. La santé émotionnelle qui est un état optimal pour la performance. Donc c'est l'état de flow que tu dois connaître, cet état de flow qui permet que on est dans le plaisir dans tout ce qu'on fait. Donc, cet état de flow amène à la performance. Donc, tout le monde est gagnant, que ce soit le dirigeant, que ce soit... Donc, voilà,
La performance est une conséquence, en fait.
C'est ça. Et aujourd'hui, c'est le bien-être. C'est le bien-être au travail. On en parle sous différentes formes. Et tant mieux, enfin, on en parle. Mais le bien-être au travail passe par aussi cette cohésion d'équipe, mais aussi un travail aussi, je pense, individuel et collectif pour aller libérer en soi déjà ses croyances limitantes, libérer ses propres peurs, ses propres peurs de la concurrence, ses propres peurs de la place que la personne prend. Aujourd'hui, dans une entreprise, pour moi, c'est comme une famille. Tout le monde doit trouver sa place et que c'est les uns avec les autres qu'on arrive à un résultat pour que l'entreprise, elle prenne... qu'elle ait des bénéfices. Tout le monde sera gagnant si on est tous à sa place.
Et tu parlais tout à l'heure de la stabilité émotionnelle, et c'est vrai qu'il y a encore pas très longtemps, on n'avait pas le droit de laisser place à ses émotions en entreprise. En entreprise, il ne faut surtout pas. C'est mal vu quand on laisse place à ses émotions, on est trop sensible, il faut être fort. Tout ça sont les croyances, en fait.
Bien sûr.
Et ce travail dont tu parles, moi, je pense qu'il doit aussi passer avant tout par le manager, qui doit donner quelque part entre guillemets l'exemple, même si j'aime pas trop cette formulation là, mais il doit guider, enfin sur le chemin, il doit se libérer lui-même, s'accepter pour pouvoir ensuite permettre à son équipe de se libérer, voire même de l'accompagner. Son équipe, c'est ça.
C'est la locomotive, et c'est vrai qu'en entreprise aujourd'hui, c'est de pouvoir que le dirigeant ça lui parle, il ressente ça, parce que si lui il est dans cette énergie vibratoire de tout ça, automatiquement ça va découler sur collaborateurs, bien sûr. Et là par exemple, j'ai un projet, c'est justement, c'est pour ça peut-être que je suis venue sur cohésion d'équipe, et je fais du sur mesure parce que la personne qui m'a contactée est manager, et donc la personne m'a dit, donc moi aussi je vais faire le stage avec eux. Mais je dis mais bien sûr, on va faire le stage ensemble.
D'accord.
Et on va travailler sur tout ça. Il y a beaucoup de violence aujourd'hui, beaucoup de colère dans cette entreprise. Et donc, il faut aller voir aussi un petit peu l'historique. Là, j'ai eu l'information qu'avant-hier. Donc, je vais travailler dessus. Et on va voir ensemble comment, en fait, pourquoi il y a autant de concurrence, de violence. Mais le manager, bien sûr, participe
pleinement et complètement, parce qu'il va, c'est une équipe, c'est tous les maillons hein, de la chaîne.
Alors du coup, pour résumer un petit peu tout ton parcours, si toi tu avais une leçon de vie que tu devais retenir de ton parcours et que tu voudrais partager, faire entendre en tout cas, comme message, ce serait quoi ?
Alors si j'avais vraiment un message, ce serait prendre soin de soi. Prendre soin de soi, écouter ses besoins, écouter son ressenti,
son intuition.
Que les paroles des autres, elles sont, faut les écouter, les conseils sont toujours bons aussi à prendre, mais la dernière parole qui doit être la plus importante, c'est la nôtre. Et pour être sur notre chemin, il n'y a que nous qui savons exactement ce qui est bon pour nous. Et ça passe, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de passer par des épisodes de vie dramatiques ou traumatisants. On n'est peut-être pas obligé de passer par là. Et c'est que maintenant, et je vois dans les écoles, là, je vais intervenir dans une école aussi, certainement, et c'est d'amener tout de suite Ho'oponopono dans cette école, l'amour, mais l'amour au sens large du terme, bien sûr, inconditionnel, et que l'autre peut être qu'une version de moi, et que si je vois de la colère en l'autre, c'est que j'ai de la colère en moi. Et si on apprend ça déjà tout petit, alors c'est peut-être très prétentieux de ma part, et peut-être on pourrait dire le monde du bisounours, mais non, je crois vraiment fermement qu'aujourd'hui, c'est pas par la guerre qu'on apportera le meilleur, dans les entreprises, ni dans les écoles, ni où que ce soit. Mais si nous-mêmes, nous nous aimons et nous nous respectons et nous écoutons, automatiquement, on va vibrer cela et ça vibrera autour. Donc vibrons l'amour, j'ai envie de dire.
c'est une belle phrase, je l'aime beaucoup en tout cas. Tu parlais de livres tout à l'heure, et même si j'ai bien entendu ton message que chacun doit trouver ses lectures selon son intuition, selon ses besoins du moment, est-ce que malgré tout, toi, tu as certains livres que tu voudrais nous partager qui ont particulièrement
marqué
ta vie ? Moi, je ne peux pas m'empêcher de poser cette question-là, parce que moi, je suis une passionnée de livres et j'en dévore... J'en dévore, et j'aime toujours m'inspirer des lectures des autres malgré tout.
Alors, je crois savoir que tu connais les livres de Lise Bourbeau.
Lise Bourbeau, bien sûr.
Les cinq blessures, écoute ton corps. J'aime bien aussi, tout ce qui est avec l'hypnose ericksonienne, bien sûr, mais aussi Ho'oponopono, tous les textes qu'il peut y avoir, le livre de Jovital, ça fait le tour du monde, en fait, de cette philosophie d'Ho'oponopono, de ce que ça a pu apporter en guérison. Dans les hôpitaux.
Juste en deux mots, tu peux nous redire, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de cette philosophie Ho'oponopono, vraiment très rapidement, tu peux nous la résumer.
Alors Ho'oponopono, en fait, une philosophie hawaïenne. Les ancêtres à l'époque, en fait, aussitôt qu'ils voyaient qu'ils s'étaient disputés un petit peu durant la semaine, en fait, ils se réunissaient, ils faisaient un rituel pour se réunir et se demander pardon. Se demander pardon de t'avoir blessé, de t'avoir touché, de t'avoir fait mal. Après, ça a été repris par Morna Simona, une chamane, qui a repris ce rituel en se disant, mais nous aussi, de ce fait avec nous, on peut se pardonner et se guérir de nos blessures, de nos souffrances, de ce qu'on a dit à l'autre, de ce qu'on s'est dit à nous-mêmes. Et c'est de là qu'est parti en fait Ho'oponopono avec nous-mêmes. Et cette philosophie permet en fait de se guérir de tout ce qui est blessure du passé, de mémoire du passé, héritage familial que nous sommes pratiquement que mémoire, et à la fois bien plus que ça, et qu'en se libérant de nos mémoires, on va devenir meilleur pour trouver la paix, justement.
D'accord.
Pour retrouver la paix. Donc, c'est très facile. Alors, facile ne veut pas dire... Parce qu'au départ, quand j'ai suivi des conférences de mes amis que je cite, que j'ai beaucoup aimées et que j'aime toujours, Marie-Élie et Jean Gracier, avec qui j'ai fait les formations, quand j'ai suivi leur première conférence, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est trop simple pour que ce soit vrai. Bah oui, parce qu'on est tellement habitué avec un mental qu'il faut que ce soit compliqué pour que ce soit vrai.
Et retournons aux sources.
Et je refais la deuxième conférence et j'ai dit, je vais quand même faire la formation. Et là, j'ai compris plein de choses. Et je n'ai jamais arrêté de pratiquer Ho'oponopono. Si je veux trouver la paix à l'extérieur, il faut que je la trouve en moi.
Mais alors concrètement, du coup, comment ça se pratique?
Alors après, c'est un rituel. D'accord. C'est un rituel qui est quatre mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais bien sûr qu'il faut les comprendre. Parce que si on se dit quatre mots comme ça, si je te dis ça, moi, on me l'aurait dit, j'aurais dit, ouais, c'est bien, c'est bien.
Donc c'est quatre mots que tu te dis à toi-même ou que tu te dis
oui,
les
qu'on
deux
se dit à, qu'on se dit à soi-même face à une situation qui nous bloque, face à une situation qu'on n'arrive pas à avoir les moyens de trouver la solution, face à aussi de dire, ah, ça, j'ai une colère, j'ai une violence. Ah, ok, c'est que derrière, il y a une mémoire. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Je sais que j'ai une mémoire
donc
derrière.
Donc, désolée de vivre cette...
Désolée, c'est désolée, je n'avais pas vu que j'avais cette mémoire derrière.
D'accord.
Pardon, je me pardonne de ne pas l'avoir vue.
D'accord.
Merci. Alors, j'anime des stages, donc là, je vais faire du raccourci
oui,
quand
oui,
même.
Oui, bien
hein,
sûr.
Où on retrouvera sur mon site, en tout cas.
D'accord.
Merci, je remercie à cette mémoire d'être venue à moi pour que je puisse la libérer. Parce
que je puisse la
passer,
travailler.
La
d'accord,
travailler,
parce que je
la libérer.
Passer à autre chose, ok.
Et je t'aime, c'est pour mettre de la lumière. Donc, je m'aime, mais je mets de la lumière aussi sur cette mémoire du passé.
D'accord.
Parce que quelquefois, on identifie nos mémoires du passé, mais comme on est rempli de mémoires, on est loin d'y avoir pu identifier toutes les mémoires
d'accord
qu'on porte en héritage.
D'accord.
Mais plus on va se libérer de ces mémoires, et ce mantra se fait partout, quand on veut, où qu'on veut.
Oui, il est disponible notre... 24 voilà. heures sur 24.
C'est, par contre, il faut bien comprendre le sens. Et c'est pour ça d'accord que je ne voudrais pas enfermer les gens, que ce soit si simple que ça. Et c'est loin d'être simplet. Et plus je le travaille au Ho'oponopono, ce que je le fais tout le temps en permanence, plus je m'aperçois de tout ce que ça m'apporte dans mes libérations. Et c'est un nouveau regard. C'est comme si tu changeais tes lunettes, Catherine, aujourd'hui, et tu mets un autre filtre et que tu vois la vie autrement. Donc,
avec une perspective différente.
Et là, on libère la voie de l'ego pour être dans la voie de l'âme.
De l'âme.
Parce que c'est ça, Ho'oponopono. Ça nous amène à la voie de l'âme et libérer la voie de l'ego et la voie des peurs.
Je mettrai de toute façon dans les notes de l'épisode le lien vers ton site pour les personnes qui voudraient en savoir un petit peu plus, et notamment par rapport aux ateliers que tu animes. Donc, les livres, on en était sûr. Donc, les livres Ho'oponopono.
Alors, bah, justement, on peut trouver les livres de Marie-Elisa et Jean Gracier sur Ho'oponopono. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est ce que j'ai pu... Parce que là, je ne lis plus, pour tout dire, enfin, ou très peu. Et ma mémoire, en fait, elle est à l'instant présent, puisque nous vivons de plus en plus dans l'instant présent. Et aujourd'hui, la lecture, il est vrai que c'est important. Mais, et je tiens à le dire ça même, voilà, c'est lire, mais après, c'est expérimenter.
Bien
parce
sûr
que la lecture reste au niveau mental. Mais elle ouvre à
bien
tous
sûr,
les possibles. Mais
sûr,
après, il faut les expérimenter, il faut comprendre. Les Catacor Toltec, bien sûr.
Oui,
un
oui
de mes livres aussi fétiches, préférés, Le chemin de la vie.
Les quatre accords Toltec, je les ai déjà abordés dans un des épisode et c'est un outil qui est extrêmement puissant et je te rejoins sur le fait de l'expérimenter, c'est-à-dire que il est très puissant quand on les lit, quand on le lit ce livre, mais de l'expérimenter aussi c'est
j'ai
très,
fait
très
des
fort
formations sur les Catacor Toltec, je l'ai lu, j'ai lu les cinq, je suis toujours à un moment donné à dire attends, par exemple un des accords ne fait pas de l'interprétation
bien sûr
de ce que l'outil te dit et ben je suis encore dans ce travail là parce qu'on a toujours
c'est
une,
au quotidien
une tendance à interpréter ce que l'outil a dit mais c'est notre propre filtre de la vie pour
bien
nous
sûr.
Mais ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bien pour l'autre et ce qui est bien pour l'autre voilà pas forcément bien pour nous donc
bien
j'en mets sur mon site des livres mais d'accord là je les ai plus en tête. Zéro limite de Jovita justement voilà, mais voilà, j'en mets, je crois en tout cas.
Marie-Thérèse, merci beaucoup pour tous ces partages, pour avoir été aussi généreuse dans tout ton parcours et tes enseignements. Si des personnes veulent te contacter, comment elles peuvent le faire?
Alors déjà, tout d'abord, merci à toi. C'est un véritable plaisir. Je n'aurais pas fait cet enregistrement si j'étais pas en confiance avec toi. Parce qu'on se met un petit peu à nu, on se livre. Je cherche pas à me confier non plus. Je cherche juste à aider les gens aujourd'hui. Et peut-être que la phrase que j'aurais à dire, c'est que tout est possible. Partout, dans tout ce que je dis, mais tout est possible. Après on a une puissance intérieure extraordinaire. On ne se connaît
qu'on
pas,
sous-estime,
et il faut aller se connaître parce qu'on a un pouvoir illimité, vraiment. Et plus on se travaille sur soi, quelle que soit la manière, c'est ça qui compte, c'est d'être en chemin, et c'est pas le bout du chemin qui compte, c'est d'être en chemin. Donc voilà, donc pas oublier qu'on a un pouvoir limité, que tout est possible. Donc oui, si je me suis confiée à toi, parce que tu me l'as demandé gentiment et tout, c'est déjà parce que je te connais en tant que personne et que j'ai confiance en la personne que tu es. Donc déjà pour ça, si ça peut aider des personnes, c'est ce que je souhaite au plus profond de mon cœur. Et plus on s'aide les uns avec les autres, plus on avance.
Pour moi, le partage est important, justement, dans fait que toi et moi, dans nos métiers respectifs, on souhaite accompagner des personnes. Et pour moi, l'objectif, et on en a parlé ensemble, de ce podcast, c'est de partager pour que chacun puisse, à son niveau, comme il le souhaite, prendre conscience de ses possibilités, en fait.
Exactement. Et donc, pour dire, les personnes peuvent me contacter ou en tout cas rejoindre soit sur Facebook, Éveil d'Ange.
D'accord, Éveil d'Ange.
Mon site internet, le lien. Éveildange.com aussi.
Donc, tu es sur mes coordonnées.
Je suis sur trois.
Tu vas aussi sur Chalon,
je crois. C'est ça, bientôt sur Lyon aussi. Des contacts sur Lyon. Des projets aussi sur Paris, Lyon. Ça c'est pas encore, c'est en cours de construction. Donc je reçois en consultation, privée, enfin en tout cas personnelle. Je reçois des couples, je reçois des enfants, puisque aujourd'hui on est avec des enfants qui font partie de ce nouveau monde, donc très éveillés, où les parents ont des fois du mal à comprendre leurs enfants. Et puis j'interviens dans des ateliers, des stages, et puis en entreprise aussi sur la gestion du stress et des émotions, mais de la manière dont je n'ai parlé tout à l'heure dans la santé émotionnelle et de ce fait de libérer tout ce qui a été dit au niveau des programmes.
D'accord. Je mettrai toutes les notes pour te contacter, toutes les références dans les notes de l'épisode. Et encore une fois, je te remercie pour ces partages.
Merci, ça a été un plaisir.
Merci Marie-Thérèse. À bientôt.
À bientôt.
Rebonjour à tous. Je reviens comme d'habitude en deuxième partie d'épisode pour partager avec vous un outil, une astuce ou une information pratique en lien avec le thème de l'interview. Je vous avoue que j'ai longuement hésité, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu beaucoup d'idées et d'outils à vous partager. Mais j'ai aussi conscience qu'il y a déjà de nombreux partages dans cet échange avec Marie-Thérèse. Et j'ai donc décidé de vous proposer pour conclure quelque chose qui va peut-être de premier abord vous sembler très simple, mais qui ne le sera finalement peut-être pas si vous le mettez réellement en application. Je rejoins l'idée de Marie-Thérèse qui est de dire qu'il est important de lire, de s'instruire, de s'ouvrir, de s'inspirer, d'écouter des podcasts, mais aussi qu'il est indispensable d'expérimenter, de tester, de mettre en application, de mettre en œuvre par exemple notamment ce que vous allez lire ou entendre si cela vient d'un podcast. Elle a également beaucoup insisté sur le fait de savoir prendre soin de soi. Prendre soin de soi pour avoir confiance en soi, mener la vie qu'on a envie de mener, se sentir en sécurité et faire en sorte que tout soit possible. Alors je voudrais vous proposer d'expérimenter et de tester le fait de prendre soin de vous, de vous écouter et de vous faire confiance. Et voici l'exercice que je vous propose. Je vous invite à choisir une situation de votre vie actuelle, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, une situation que vous avez envie de travailler, peut-être inconfortable pour vous en ce moment, que ce soit une petite situation, entre guillemets, qui peut vous sembler banale de la vie quotidienne, ou une situation beaucoup plus significative ou plus engageante, avec plus d'enjeux, par exemple. Et demandez-vous la chose suivante. Quelles actions, ou quelle action au singulier, je souhaite mettre en place pour prendre soin de moi par rapport à cette situation? De quoi ai-je besoin en réalité, à l'instant T? Quel est mon ressenti dans cette situation? Qu'est-ce qui serait bon pour moi, a priori, au fond de moi, indépendamment du regard des autres ou des conseils des autres? Est-ce que, par exemple, c'est une relation avec une personne qui vous perturbe ou vous pollue et que vous avez tout simplement envie de prendre un peu des distances pendant quelques temps? Est-ce que c'est un dossier qui immobilise toute votre énergie mentale et vous ne vous sentez plus efficace? Vous aimeriez, par exemple, faire une pause pendant une semaine ou en tout cas pendant quelques jours? Est-ce que c'est une nouvelle activité que vous avez vraiment envie d'essayer depuis longtemps et que vous ne faites pas, faute de temps, de disponibilité ou par culpabilité? Bref, peu importe la situation, choisissez en tout cas un sujet qui vous tient à cœur,
et qui va vous conduire à vous écouter, à prendre soin de vous, encore une fois, indépendamment du regard des autres. Regardez quelle réponse arrive spontanément, mais pas la réponse de votre mental, pas le côté rationnel, mais plutôt la réponse qui vient de votre intuition, de votre ressenti, de votre cœur, du plus profond de vous-même. Testez, mettez en application ce que vous dit votre intuition et regardez ce qu'il se passe de bien. Au-delà d'une situation, il peut aussi s'agir de tester un outil. Par exemple, en fin d'interview avec Marie-Thérèse, nous avons parlé des 4 accords Toltec. Alors si ce sujet vous intéresse, je vous invite par exemple à écouter l'épisode 19 de La boîte à clés avec Céline Siritelis. Et mettre en application, alors fixez-vous un délai, peut-être une journée dans un premier temps ou une semaine comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, un délai pour vous y tenir et tester ces 4 accords Toltec pour voir ce qu'il se passe. Vous allez voir que très probablement, quel que soit le sujet que vous décidez de tester ou de mettre en application, ça va sûrement vous apporter non seulement du bien-être sur le moment présent, mais ça va peut-être aussi amorcer des choses ou des changements plus significatifs. Ou en tout cas, ça va vous permettre de gagner en confiance en vous et de voir que c'est possible. En tout cas, le plus important est de commencer petit à petit, puis de recommencer et d'avancer pas à pas si vous voulez que des changements à plus long terme s'installent. Voilà pour ce 23e épisode. J'espère qu'il aura été inspirant pour vous. Je vous rappelle, comme à chaque fois, plusieurs choses. Premièrement, si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de vous abonner sur votre plateforme préférée, de lui mettre une note 5 étoiles ou un avis, de me faire vos feedbacks et vos commentaires et surtout de le partager autour de vous. Enfin, deuxièmement, si vous souhaitez me contacter ou découvrir toutes les formes d'accompagnement que je peux vous proposer, vous pouvez trouver toutes ces informations en allant sur mon site www.cbcoach.fr ou en allant sur les réseaux sociaux, à savoir la page Facebook CB Coach, le compte Instagram cbcoach51. Une dernière chose, vous avez été nombreux à participer en 2019 aux ateliers « Révéler son Ikigai » que j'ai organisé, et nombreux aussi à me demander les dates pour 2020. Eh bien, ça y est, les prochains ateliers sont planifiés, à savoir le samedi 4 avril et samedi 6 juin. Alors, une fois de plus, allez tout de suite voir sur le site www.cbcoach.fr pour réserver votre place si ça vous intéresse de venir vivre cette aventure. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.